Bien, alors bonsoir à vous. Et ce soir, c'est un cours d'introduction, donc la première séance ce soir. Et je vais essayer d'expliquer au moins dans la première partie le titre qui a été donné à cette série de cours, les 8 cours, l'introduction à ce qui s'appelle chez Manitou Torah Toldot. Je vais tout de suite expliquer et traduire. Et aussi expliquer le sous-titre de la. Du sujet de ce soir, Manitou, le maître du Midrash. Et dans une deuxième partie, j'essaierai de donner un exemple de la méthode, de sa méthode d'enseignement. Et comme on n'est pas trop éloigné de Shavuot, bientôt dans 15 jours à peu près, donc je parlerai d'un sujet qui a un rapport directement avec Shavuot pour vous expliquer ou pour vous illustrer ce que j'aurais dit précédemment. Bien. Donc j'en viens à la première partie. Torah Toldot, ce qu'on devrait traduire en français comme étant le mot de Torah et d'enseignement, enseignement des engendrements. Et effectivement, ce sujet-là, Torah Toldot, est très certainement le sujet principal de tout l'enseignement de Manitou. L'enseignement de Manitou, c'est 40 ans passés d'enseignement, donc c'est quelque chose d'assez considérable. Mais année après année, Manitou a enseigné et réenseigné Torah Toldot à différents niveaux, mais toujours, que ce soit à Orsay, que ce soit à Mayanot, que ce soit au centre Yahir ensuite. Dans d'autres endroits, le Machon Mir, etc., il a toujours pris la peine, pour ceux qui n'étaient pas au courant de cet enseignement-là, de reprendre depuis les bases, depuis le début. Et donc, dans les séances à venir, on va survoler, je dis bien survoler, un certain nombre de sujets qui étaient absolument des thèmes absolument essentiels de Torah Toldot. Chaque sujet pour lui-même demanderait des mois et des mois de développement, mais au moins pour vous donner une idée, un aperçu des choses. Bien. Alors, le titre lui-même de Torah Toldot a une histoire que je pense est intéressante à raconter en 2, 3 minutes. Parce que si on consulte, par exemple, les notes des anciens d'Orsay, eh bien, on voit que le premier titre donné à Torah Toldot, c'était un titre un peu différent, l'anthropologie morale. Ça s'appelait le cours d'anthropologie morale à Orsay pendant quelques années. Après, c'est devenu le cours de Torah Toldot, vers le milieu des années 50. Mais je pense qu'il y avait une intention très précise quand Manitou a utiliser ce terme d'anthropologie morale. Bon, il y a des références très précises à un certain nombre de penseurs qui étaient connus dans la fin des années 40, début des années 50, qui aujourd'hui sont beaucoup moins connus, mais qui à l'époque étaient assez importants. Mais dans les deux termes, anthropologie d'un côté et le terme de morale de l'autre, on a un résumé. On a un résumé assez précis de ce que le Rav Ashkenazi Manitou voulait enseigner. En effet, Torah Toldot s'occupe en gros de trois sujets principaux qui sont intimement liés les uns avec les autres. Premier sujet, qui sommes-nous? Qui sommes-nous comme homme? Qui sommes-nous comme Israël? Et quand je dis qui sommes-nous, on devrait séparer cette question en deux sous-questions. Qui sommes-nous et qui devons-nous être? Donc la question essentielle qui est posée là-dessus, c'est la question anthropologique, la question identitaire. Il y a une certaine manière d'être homme, disait Manitou, qui s'appelle Israël. Eh bien, il faut définir le contenu de cette identité. Qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui particularise cette manière d'être homme par rapport à toutes les autres manières d'être homme que l'on peut connaître, que ce soit dans la société occidentale, les différentes nations, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, etc., mais aussi dans le monde entier. Donc, il y a cette manière d'être homme qui s'appelle Israël et Il faut donc la caractériser et la particulariser. Deuxième volet de Torah Tatoladot, à partir du moment où nous commençons à comprendre qui sommes-nous ou qui nous devons être, c'est qu'est-ce qu'on veut de nous. Puisque s'il y a une différence entre ce que nous sommes réellement, donc concrètement, à une période donnée, par rapport à ce que nous devons être, eh bien, on comprend tout de suite qu'il y a derrière ça un projet, et donc ce projet nous demande quelque chose. Ce projet, c'est évidemment le projet du Créateur du monde, et donc il attend de nous quelque chose, et nous devons définir très exactement ce qu'il attend de nous, et de là comprendre qu'est-ce que nous devons concrètement faire. Et le troisième volet, c'est que quand nous allons passer à ce stade-là de l'action, du faire, eh bien, ça va se faire dans la dimension de l'histoire, dans la dimension historique de la durée. Et donc, on comprend tout de suite que l'histoire en elle-même a une signification et a un sens. La durée n'est pas quelque chose de neutre, mais cette durée, le fait que le temps dure, a un sens et une signification qu'il va falloir aussi élucider. Je donne tout de suite une indication importante, parce qu'elle est absolument fondamentale, comme vous allez le voir tout de suite, c'est qu'il y a un critère de jugement de l'action qui est faite, que ce soit au niveau de l'homme, ou que ce soit au niveau d'une identité, que ce soit l'identité d'Israël, que ce soit l'identité humaine en général, ou l'identité des différentes composantes de cette identité humaine. Et ce critère de jugement est un critère moral. Voilà donc pourquoi Manitou, au début, appelait ce cours-là l'anthropologie morale. L'anthropologie pour parler d'identité, et morale pour mettre l'accent sur ce critère de jugement. J'espère que les choses sont maintenant élucidé de ce point de vue-là. Bien. Maintenant, il faut se poser la question, mais pourquoi il y a besoin de quelque chose de nouveau? Pourquoi on ne peut pas se contenter finalement de continuer cet enseignement traditionnel qui a été formulé et articulé pendant des dizaines et des centaines d'années, pourquoi et tout d'un coup il faut une nouvelle manière de présenter les choses? Eh bien, il suffit tout simplement, pour répondre à cette question, de se replacer dans le cadre historique de l'Europe, de la France, après la Deuxième Guerre mondiale. En France, après la Deuxième Guerre mondiale, on a des rescapés, on a aussi des gens qui arrivent de l'Est de l'Europe, bien évidemment, des rescapés de la Shoah, mais on a aussi des gens qui commencent à arriver de l'Afrique du Nord, que ce soit de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie. Ces gens-là qui arrivent commencent à poser des questions et ont leur propre interrogation. Et il faut bien dire, du point de vue historique, que malheureusement, les maîtres de la génération précédente, pour la plupart, ne sont pas ou ne veulent pas s'attaquer directement aux questions existentielles que ces personnes, la plupart des jeunes étudiants, se posent. Comme disait Manitou, mais ce n'est pas le seul à le dire, on a vécu deux événements absolument fondamentaux, un à Auschwitz, l'autre Hiroshima. Il y a des interrogations existentielles qui sont nouvelles, qui n'existaient pas avant la Deuxième Guerre mondiale, qui n'existaient certainement pas avant la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a une espèce de cassure qui s'est produite pour beaucoup. Et ces gens-là cherchent une adresse. Et Manitou, qui est tout jeune, je vous rappelle qu'il est né en 1922, donc quand il arrive en France en 1946, il a tout juste 24 ans, même s'il a il est déjà connu au niveau du mouvement des EI comme étant quelqu'un de très charismatique, et il ne recule devant aucune question et qui est prêt à, a justement parlé de tous ces problèmes-là, c'est quand même un jeune homme de 24 ans qui arrive et qui va se retrouver projeté directement au milieu de ce bouillonnement, de ces interrogations, et qui va devoir commencer à répondre à ces interrogations-là. Et même s'il a reçu, et je vais en parler tout de suite, un contenu traditionnel qu'il a lui-même étudié très longuement avec ses maîtres, dont je vais parler tout de suite, avant-guerre et au tout début de la guerre, personne à ce moment-là ne lui a donné des clés pour parler de ces événements absolument qui ont bouleversé le paysage juif et le paysage humain en général. Et il faut dire qu'il a ce courage immense de relever ce défi-là et de commencer à formuler en langage accessible par tous, c'est un point absolument essentiel chez lui, un langage accessible par tous de ces contenus traditionnels qu'il a reçus et qu'il faut maintenant reformuler. Manitou parle de renouvellement de sens, de chidouche, d'un renouvellement de sens qu'il faut reformuler en prenant en compte les événements passés et les interrogations de la nouvelle génération. Bien. Et donc, un travail de fond que Manitou va faire pendant quelques années, il en a parlé à certaines occasions, un travail de fond qu'il va faire, ça va être de trouver cette formulation. Et pour ça, il va forger un véritable langage. Manitou a compris tout de suite que le langage religieux classique des rabbins français est complètement inadapté. Le langage traditionnel des rabbins français est un langage hérité du 19e siècle, plein de sous-entendus et d'ambiguïtés que les gens ne comprennent plus. Et donc, il faut trouver une nouvelle langue. Bon, Manitou, par sa formation à ce moment-là, est en train de finir ses études de philosophie. Il va aller ensuite étudier l'anthropologie et l'ethnologie au musée de l'homme à Paris. Mais il cherche ce langage-là parce qu'il a reçu, lui, un contenu, d'ailleurs, qui n'était pas formulé en français du tout, pour la plupart, qui était formulé en judéo-arabe tel qu'il était parlé en Afrique du Nord. Il a étudié les textes en hébreu, évidemment. Il a donc reçu ce contenu-là. Et maintenant, il faut le formuler pour des étudiants, des universitaires français qui sont à la Sorbonne ou dans d'autres universités et donc qui ont un langage tout à fait différent. Et Manitou, pendant quelques années, va d'abord chercher les bases de ce langage-là. C'est pour ça qu'il ira étudier l'anthropologie. Parce qu'il a compris que les anthropologues français, l'école de Claude Lévi-Strauss, et pas que lui, il faut citer là d'autres personnes, le père Jousse, etc., mettent l'accent sur la question identitaire. Et donc, ils ont formulé, ils ont inventé un langage qui, pour Manitou, va être la clé finalement de la clé qu'il recherche. Il va prendre toutes ces expressions qui appartiennent à cette école d'anthropologie française, il va les vider de leur contenu et leur donner un contenu hébreu. C'est ça son trait de génie du point de vue pédagogique. Et comme il parle cette langue-là qui n'est pas une langue philosophique, qui n'est pas une langue religieuse, eh bien les gens peuvent très facilement, comme ce que enfin, la plupart d'entre eux pensent, accéder à ce qu'il veut dire. Sans avoir à faire des efforts insurmontables pour la plupart d'entre eux. Mais il faut bien comprendre que ce n'est que le langage de présentation de ce que veut dire Manitou. Tout le contenu est un contenu absolument traditionnel. Manitou n'a jamais dit quelque chose, il n'est pas philosophe, il n'invente pas une philosophie, il n'a jamais dit quelque chose qu'il n'a pas reçu de ses maîtres. Il y a très très rares exceptions dans tous ces cours, des milliers d'heures de cours, où il dit j'ai pas de source à ce que je viens de dire. Vous pouvez les compter sur les doigts des deux mains. Il transmet ce construit traditionnel qu'il a reçu, le formule dans cette langue anthropologique identitaire pour rendre ce contenu accessible en français, alors que le français, c'est une langue qui véhicule une culture chrétienne, philosophique, grecque, latine, pour formuler en français ce qu'il veut dire, ce qu'il a reçu lui-même. De qui il l'a reçu? Eh bien, d'abord, commençons par le début. Il a reçu, évidemment, de son père, le grand rabbin David Ashkenazi, qui était le grand rabbin de l'Oranie, avant de devenir le dernier grand rabbin d'Algérie. Il l'a reçu de son grand-père, du côté maternel, le Rav Chaim Touboul, qui était lui-même Dayan, un juge et un Mikoubal à Oran, qui vient d'une très longue lignée de Mikoubalim qui remonte jusqu'à un des élèves principaux du Hari. Je dois mentionner aussi sa mère, qui était une grande Talmida Hachamim, on peut dire. Mais je dois aussi mentionner évidemment d'autres maîtres qu'il a eus, par exemple pendant la période où il est à Marrakech en 42, où il a été étudié avec les grands Mikoubalim de l'époque de Marrakech. Je dois aussi signaler par exemple Rav Fingerhut à Alger. Et puis après, quand il arrive en France, évidemment Jacob Gordin, mais aussi d'autres rabbins qui se trouvent sur place, le Rav Rubinstein, le Rav Eli Munk, le Rav Shili par exemple. Et puis plus tard, quand il rencontrera le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, le fils du premier grand rabbin Ashkenaz d'Israël. Il faut aussi citer, bien entendu, le Rav, le fils du Baal HaSoulam, du point de vue de l'enseignement de la Kabbale, le Rav Ashlag, et d'autres que Manitou cite à l'occasion. N'oublions pas son professeur au Talmud Torah quand il était jeune aussi, il faut le signaler. Manitou le rapporte à de très nombreuses occasions, Eliyahu Abouziz. Et donc, voilà. Mais tout ça forme un enseignement tout à fait traditionnel, comme je l'ai dit, qui n'a pas été reçu pour la plupart en français, mais soit en judéo-arabe, soit en hébreu. Et donc, Manitou va nous le transmettre pendant ces 40 ans. Alors, qu'est-ce qu'il nous transmet? Eh bien, il va nous transmettre ce que j'ai défini tout à l'heure, cette Torah Toladot, qui est finalement basée sur une étude très précise du Midrash. Le Midrash, pour Manitou, ce n'est pas un ensemble de petites histoires qu'on raconte aux enfants juste avant l'entrée de Shabbat à l'école, parce qu'il faut qu'ils aient une bonne histoire à raconter le vendredi soir à table. Le Midrash pour Manitou, c'est le fond même de la sagesse et du peuple hébreu. Sagesse qui a cette particularité-là d'être une sagesse prophétique. C'est cette notion-là de la prophétie, dont on n'a aucune expérience aujourd'hui, mais c'est cette notion-là qui différencie la sagesse spécifique d'Israël par rapport aux sagesses des autres nations. Donc, cette sagesse-là a été finalement formulée d'une certaine manière à travers le Midrash. Et au cours des différents siècles, les grands maîtres de la tradition ont puisé dans la mer, l'océan des Midrashim, les enseignements qu'ils jugeaient nécessaires pour nos générations. Le Midrash n'est pas là pour nous raconter ce qui s'est passé, ça c'est une erreur courante. Les gens pensent que quand le Midrash parle de ce qui se passait en Égypte, eh bien on a affaire à un journaliste de telle ou telle chaîne de télévision qui se trouve sur place et qui nous raconte ce qui se passait. Ce n'est pas du tout de ça dont il est question. Le Midrash vient nous enseigner à nous, les descendants des Hébreux, c'est-à-dire le peuple juif, les thèmes d'identité essentiels pour comprendre qui nous sommes. Et qu'est-ce qu'on attend de nous, comme je l'ai dit, mais aussi devant quel danger éventuellement nous nous trouvons. Et les maîtres principaux qui résument cet enseignement du Midrash sont pour Manitou les deux grands maîtres qu'il a enseignés toute sa vie, le commentaire de Rashi sur la Torah et les livres du Maharal de Prague. Voilà donc les deux enseignements auxquels Manitou va systématiquement revenir, même s'il cite des dizaines d'autres et qu'il étudie des dizaines d'autres auteurs importants. On reviendra finalement toujours à Rashi sur tel ou tel verset et au Maharal de Prague sur tel ou tel thème d'identité. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier finalement pas que particulier, mais qu'est-ce qu'il y a d'essentiel du point de vue de la méthode de l'étude chez Manitou qui va nous servir pendant tous ces cours-là? Première chose, il faut lire ce qui est écrit. Je répète, il faut lire ce qui est écrit et non pas ce qu'on croit qui est écrit. Lire ce qui est écrit, ça veut dire le lire en hébreu. Et donc, il faut comprendre le sens des mots tels que l'hébreu, au temps de la révélation, les comprenait. L'hébreu moderne, ce n'est pas l'hébreu de la Torah. Donc, il faut faire cet effort de comprendre les mots dans le sens qu'ils avaient au moment où la prophétie a été dite. Première chose. Et là, il faut les lire tels que nos sages les ont lus. Nos sages, c'est la période de Chazal. Chazal, ça commence depuis le retour de l'exil de Babylone, du premier temple, oui, jusqu'à la fin de la rédaction du Talmud de Babylone. Donc, on a là une période culturelle d'à peu près, allez, 700-800 ans, même un peu plus, pendant laquelle nos sages ont transmis les contenus de la prophétie. On n'est plus dans l'époque de la prophétie, elle s'est terminée avec la fin du premier temple. Mais on a reçu ce contenu-là en héritage et il a été reformulé principalement à travers le Midrash pour ces générations qui vivent maintenant. Au début, le retour de l'exil, ensuite la perte du deuxième temple, et ensuite le départ, après la destruction du deuxième temple, à nouveau en exil. Ce qui a été formulé à ce moment-là n'a pas été formulé que pour ces générations-là, c'est un principe essentiel, elle a été formulée pour nos générations aussi. Mais il faut faire cet effort de compréhension pour savoir de quoi on parle. Deuxième clé absolument fondamentale chez Manitou, c'est que quand on lit un verset, on ne sait pas ce qui est écrit le verset suivant. C'est-à-dire qu'on lit dans l'ordre des versets. Quand je parle des versets par exemple, qui nous racontent la sortie d'Égypte ou le début de l'histoire de la sortie d'Égypte, je ne sais pas encore que les Hébreux vont sortir d'Égypte. Et donc, je dois faire l'analyse nécessaire pour comprendre quelles sont les différentes options identitaires et au niveau des actes qui sont à prendre en compte. Si par la suite, une fois que j'ai fini cette analyse-là, je veux faire une deuxième analyse qui est a posteriori pour comprendre et pour éclairer certains autres aspects de cet enseignement-là, je peux le faire, bien évidemment. Mais ça ne peut pas venir avant et à la place de cette analyse a priori de ce qui est dit dans la Torah. Troisième clé fondamentale chez le Manitou, c'est qu'il existe, c'est qu'on doit faire un va-et-vient entre le texte, ce qu'il nous dit, et notre réalité. Il y a un principe dans le Midrash qui s'appelle Maaseh Avot Siman Labanim. Ce qu'ont fait les pères est un signe pour les enfants. Donc on a un mouvement depuis le texte vers nous, mais rajoute Manitou, et le principe se trouve chez le Maharal, c'est que notre existence doit nous aussi et permettre d'éclairer. Notre réalité doit permettre d'éclairer ce qui est dit dans le texte. C'est-à-dire que, par exemple, de nos jours, nous avons vécu et nous vivons un événement comparable, beaucoup plus considérable, de sortie de l'exil, du dernier exil, Et par conséquent, certains thèmes qui restaient obscurs pendant des dizaines de générations, de qu'est-ce qu'on vit au moment de la libération, de l'exil, aujourd'hui, nous pouvons les comprendre, puisque nous les avons vécu, nous les vivons, et s'en servir pour éclairer ce qui est dit dans le texte lui-même. C'est ce troisième principe que je tiens à souligner dès le départ. Quatrième principe absolument fondamental, comme je l'ai dit, tous ces enseignements-là n'ont pas pour but de nous raconter ce qui s'est passé. Il y a un principe très important dans la Gemara, Maaseh Haya Haya. Ce qui était, a été. On ne s'occupe pas ni d'histoire, ni d'archéologie de ce point de vue-là. On s'occupe de nous, de notre identité à nous, aujourd'hui. Et donc, si on comprend bien ce principe-là, on doit aujourd'hui donner un sens, on doit donner du sens à ce qui nous arrive au niveau historique. Et par conséquent, il y a une question qu'il va falloir se poser, et on la posera, je pense que ça viendra vers la fin de tous ces cours-là, c'est la question de savoir, mais dans quel temps de l'histoire nous nous trouvons? Parce que si nous nous trouvons encore dans, si nous nous trouvons...
Chaïm,
Oui.
excusez-moi, vous n'avez pas la possibilité, parce que moi je n'ai pas la possibilité de couper les micros. Normalement, vous devez pouvoir les couper, les micros, non?
Oui, et je passe mon temps à les couper, mais il y a des gens qui passent leur temps à les rouvrir.
Si vous
Voilà.
faites couper les tous, non, on
Oui,
coupe.
même quand je coupe tout, comme je coupe tout, il y en a qui rouvrent tout de suite systématiquement. Alors, je reviens à ce que je disais. Le diagnostic précis de l'étape de l'histoire dans laquelle nous nous trouvons. Pourquoi? Parce que ce qui doit être fait dépend de l'étape de l'histoire dans laquelle on se trouve. Et là, on parle de processus historique. Et ce processus-là, il a des étapes, il a des carrefours. Et si on se trompe dans ce diagnostic-là, eh bien, soit on s'amuse à refaire ce qui a déjà été fait, donc c'est une perte de temps, soit on se trompe complètement dans la direction qu'on aurait dû prendre ou qu'on doit prendre quand on se trouve à un carrefour. Donc, il est absolument crucial, quand même absolument vital de comprendre dans quelle étape historique on se trouve. Voilà les grandes clés que je tenais à présenter dès le début pour que on commence à saisir un peu cette méthode qui, à bien des égards, et il faut dire, quand on y est confronté pour la première fois, eh bien, a des aspects révolutionnaires. Que ça soit quand on parle à un public francophone ou quand même quand on parle en Israël à un public israélien qui n'est pas du tout de culture francophone au départ, eh bien, une des premières réactions, c'est « Mais comment ça se fait qu'on n'a jamais étudié comme ça, qu'on n'a jamais présenté les choses de cette manière-là » Eh bien, la réponse est que s'il y a révolution, c'est au niveau de la présentation, mais certainement pas au niveau des contenus, parce que comme je l'ai précisé auparavant, tout ce que dit Manitou, tout ce qu'il a enseigné, est fondé sur l'enseignement qu'il a lui-même reçu et sur des sources très précises qui, malheureusement, pour certaines, ne sont pas assez étudiées. Et finalement, et Manitou, plus d'une fois, a dénoncé ces choses-là, transforme ce que la Torah a à dire, transforme l'enseignement de tous ces maîtres d'Israël pendant des centaines d'années en une espèce de bouillie indigeste qui finalement soit se réduit à des banalités que tout le monde peut dire, soit à des tendances christianisantes ou philosophe ou d'espèces de philosophie qui n'engagent à rien, et finalement on reste avec ces questions et je vous rappelle les deux questions principales que j'ai rappelées au début. La première question, c'est qui nous sommes, qui sommes-nous? Et deuxième question, qu'est-ce qu'on veut de nous? Voilà. Alors, avant de passer à la deuxième partie, qui sera une illustration de ce que je viens de dire, est-ce que vous avez des questions? Voilà, maintenant, on peut ouvrir les micros, chacun, et poser des questions. Et comme toujours, comme c'est la première question qui est toujours difficile, nous passons directement à la deuxième. Ça sera beaucoup plus simple.
Quand vous parlez de la forme révolutionnaire, vous parlez aussi de la méthode pédagogique d'une manière plus précise, c'est-à-dire par opposition au yeshivot, par exemple.
Alors, bon, ça c'est un sujet pour lui-même, je dirais par rapport, j'aime pas trop le mot de opposition. Il y a un article fameux de Manitou du milieu des années 50 où il appelle à une synthèse des méthodes traditionnelles d'enseignement des yeshivot avec certaines méthodes de l'université. Donc, je sais qu'on pourrait employer le mot d'opposition, mais c'est, je pense pas que ça soit. Non, ce que Manitou veut dire, c'est que ce qui est apparu au cours des années à partir, disons, du 19e siècle et puis au 20e siècle, c'est que dans beaucoup d'endroits, je pense qu'on pourrait dire de son point de vue, dans trop d'endroits, on a réduit le message de la Torah à un message de type religieux, une espèce de catéchisme pour juifs, avec des dogmes d'un côté, avec des règles à appliquer, on ne sait pas trop pourquoi, avec des explications qui tiennent du merveilleux, dans le meilleur des cas, mais enfin des choses infantiles, et puis voilà, c'est tout. Donc de ce point de vue-là, effectivement, du point de vue pédagogique, il y a sans aucun doute une révolution. Et d'ailleurs, le public de l'époque ne s'est pas trompé. Et Manitou a plus d'une fois raconté qu'un jour il a été convoqué à une réunion d'urgence au consistoire de Paris, milieu des années 50. Toutes les grandes sommités de l'époque y étaient. Bon, chacun parle à son tour. La question était de savoir pourquoi les synagogues sont vides. Et puis, arrivé le tour de Manitou à parler, il a dit je comprends pas de quoi vous parlez. Venez chez moi le vendredi soir à Orsay, vous verrez, c'est complet, on refuse même des gens. Alors là, on commence à lui poser des questions. Il dit, mais écoutez, tant que les synagogues ressembleront à des temples, ben, ça n'attire personne parce que ceux qui veulent aller au temple, ils vont au temple. Quand les synagogues ressemblent à des vraies synagogues, ben, les gens viennent. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de contenu et de manière de formuler ce contenu-là. Ce n'est pas que ceux qui en parlaient ne savaient pas de quoi ils parlaient. Mais ils pensaient que leur public était à un niveau tellement bas qu'il fallait leur présenter cette espèce de bouillie que Manitou a dénoncé toute sa vie. Pour essayer de les approcher. Je voudrais rappeler une anecdote. Manitou, la plupart savait très bien qu'une grande partie des gens qui étaient en face de lui ne connaissaient pas un traître mot d'hébreu. Or, quand il étudiait un verset ou qu'il étudiait quelques lignes de la Gemara, à l'époque, il n'y avait pas des photocopieuses comme il y a aujourd'hui, c'était encore avec la... Vous vous souvenez? Eh bien, il distribuait des textes en hébreu. Et puis les gens regardaient les textes. C'est quoi qui est écrit? Il n'y a pas une traduction en français? Manitou disait, mais on va traduire, ne vous inquiétez pas. Mais je ne vois pas pourquoi je devrais considérer que vous ne savez pas de quoi il est question. C'est une question de respect envers le public. Je fais comme si. Pourquoi je fais comme si? Parce que je pense que vous en êtes capable. Donc, en réalité, il a invité à un effort. Est-ce que le public a toujours compris ça de cette manière-là? Ça, c'est une autre question. Mais de son point de vue, c'était une question de respect de son public. Moi, je sais lire ce qui est écrit, ben vous allez le savoir aussi. Je ne me considère pas comme étant au-dessus de vous et vous écoutez sagement ce que j'ai à dire. Quand on étudie vraiment tous ensemble.
Et Chaim, est-ce que je peux me permettre de poser une question ?
Eh oui, on en est au stage des questions.
Merci. Est-ce que tu pourrais donner une définition du Midrash, parce que j'ai toujours énormément de mal. En fait, je ne sais pas ce que c'est le Midrash. Toujours l'impression d'avoir des gens qui savent ce que c'est. Moi, et je ne comprends pas l'enseignement de Manitou parce que je ne comprends pas le mot Midrash.
Oui, alors d'abord le Midrash, de manière technique, c'est un recueil de textes. Il y a plusieurs Midrashim. Mais au niveau de la méthode, vous savez certainement qu'il y a de manière traditionnelle quatre niveaux d'études différents. Un qui s'appelle le pshat, qu'on appelle en français le sens littéral, mais je vais prendre peut-être quelques secondes pour expliquer ce qu'on entend par le sens littéral. Un deuxième niveau qui s'appelle le remez, l'allusion. Un troisième qui s'appelle le drash. En français, on traduit, je crois, par le niveau allégorique, mais comme le mot allégorique chez les chrétiens a pris un autre sens, alors je vais ne pas l'employer. Et le quatrième niveau, le sod, le niveau du secret. Bien, alors, le pshat, on a l'habitude aujourd'hui de dire, il faut comprendre le sens des mots, un peu de grammaire, pas du tout. Manitou a donné une définition très précise de ce que s'écrit le pshat. Le pshat, c'est le sens tel que les Hébreux, au moment de la prophétie, comprenaient. Et donc, comme nous nous trouvons, nous, grosso modo, 2500 ans après l'arrêt de la prophétie, le pshat pour nous est devenu le sod, le secret. Puisque nous ne vivons plus au moment de la prophétie. Par exemple, la Torah, le Tanakh en général, la Bible, parle des anges. Et Manitou disait, quelqu'un dans la salle a vu un ange ? Non. Et puis si quelqu'un osait lever le doigt, il lui donnait évidemment le numéro de téléphone d'urgence de la psychiatrie la plus proche. Parce qu'à un moment où il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de révélation. Et ça, on a énormément de mal à le comprendre. À tel point que certains viennent dire, comme il n'y a pas de révélation aujourd'hui, c'est qu'elle n'a jamais eu lieu. Mais non, l'option identitaire du peuple juif, qui continue le peuple hébreu, a été de dire que même si la révélation est terminée, au moins interrompue, eh bien, le contenu qui a été véhiculé continue à vivre et c'est nous qui le faisons vivre. Mais le pshat, entre-temps, le sens soi-disant littéral des versets, est devenu pour nous le sod. Et c'est là qu'intervient le midrash, parce que le midrash, en tant que tel, en tant que méthode, vient nous expliquer à nous, les juifs héritiers des Hébreux, quel est le sens pour nous, les juifs, de cette prophétie qui a été dite aux Hébreux. C'est ça le fond des choses du Midrash. C'est de nous prendre un verset et de nous montrer quel est le thème d'identité, le thème historique, le thème moral qui est inscrit dans le verset en tant que verset, pour lui-même. Pas en rapport avec les versets précédents ou qui viennent après. D'abord, de nous exposer ces thèmes-là. Et pourquoi ces thèmes-là y sont ? Parce que quand on fait attention, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, et qu'on lit très exactement ce qui est écrit, eh bien, on s'aperçoit que le verset est plein de problèmes grammaticaux, de problèmes de syntaxe, de problèmes de compréhension. Et par conséquent, derrière ces problèmes-là, qui sont voulus, se cachent ces thèmes différents que je viens de mentionner. Et par conséquent, le contenu de l'étude de nos sages, c'est de nous les faire ressortir en adéquation avec nos problèmes à nous. C'est pour ça que Manitou est, comme je l'ai d'après le titre que j'ai donné à ce cours de ce soir, est vraiment le maître du Midrash, parce qu'il a fait ce travail que d'autres ont fait avant lui pour leur génération, il l'a fait pour nos générations. Quand il étudie un verset et qu'il vient après étudier Rashi, qu'il vient citer le Maharal et qu'il vient éclairer tel ou tel problème avec cette méthode de va-et-vient que j'ai signalée précédemment, eh bien, il nous explique notre identité. Il nous explique nos choix. Il nous présente notre histoire. Nous nous trouvons maintenant devant un carrefour historique. Personne ne s'y est trouvé avant nous. Les carrefours historiques du 18e, du 19e, du 15e, du 16e, ça y est, c'est fini. Nous, on se trouve devant de nouveaux carrefours. Et il faut que quelqu'un vienne nous éclairer et nous présenter les différentes alternatives. C'est ça la méthode du Midrash. Bien, est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou je peux passer à la partie illustration de ce que je viens de dire? Bien, alors, on va passer à la méthode d'illustration. Et pour cela, j'ai choisi un thème qui est important chez Manitou, très important même, demanderait beaucoup de développement. Et d'ailleurs, il a écrit un très long article qui s'appelle « L'événement du Sinaï ». Je crois qu'il a été repris dans « La parole et l'écrit ». Il me semble, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Mais à l'époque, il avait été publié dans un livre qui s'appelait « Les 10 paroles ». C'est quelqu'un là chez lui, 1995. Donc, c'est un an un peu avant sa mort. Il a écrit ce long article où il présente un certain nombre de choses que j'aimerais vous faire partager maintenant. Et pour ça, je vais passer dans le mode de partage d'écran pour que vous ayez le texte en hébreu. Vous voyez, je fais comme Manitou, il faut avoir le texte en hébreu devant les yeux. Et donc, que vous l'ayez devant les yeux une seconde, juste le mettre en place pour que vous puissiez l'avoir avec moi. Alors, le voilà. Bien. Est-ce que tout le monde voit le texte?
Non. Merci.
Oui?
Oui.
Oui, très bien. Alors, c'est le 19e chapitre du livre de Shemot, de l'Exode, qui précède le 20e chapitre, qui est le Mahamad Ar-Sinaï, donc la révélation du Sinaï la nuit de Shavuot. Enfin, ce que nous célébrons pendant la fête de Shavuot. Et là, nous avons la description de ce qui s'est passé quand les Hébreux arrivent. On est au 43e jour de la sortie d'Égypte. Quand ils arrivent au pied du Ar-Sinaï, je vous lis rapidement et je traduis au fur et à mesure. Bachodesh HaShlishi. Letzet Bene Israël Meretz Mitzrayim, donc le troisième mois, début du troisième mois de la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, Bayom Azeh, en ce jour, Baou Midbar Sinaï, ils sont arrivés au Sinaï. Je passe sur tous les problèmes qu'il y a là-dessus, sur ce verset-là, qui en est plein. Vayissoum et Refidim, et donc ils ont voyagé depuis un endroit qui s'appelle Refidim, ou Baou Midbar Sinaï, Ve'achanouba Midbar, Ve'achanan Sham Israël Negedar. Et donc tout Israël arrive au pied du Sinaï. Et là, on a la description du dialogue entre Moïse et Dieu, à partir du verset 3. Où Moshe alla et la Elohim va ikra et la vachem minahar. Donc, il monte sur la montagne et Dieu l'appelle, les morts pour lui dire, Kotomar les bet Yaakov, tu diras à la maison de Yaakov, Vetagid les venez Israël, et tu diras aux enfants d'Israël. Atem reitem, vous avez vu, Asher asiti les Mitzrayim, ce que j'ai fait à l'Égypte. Va et sa etraim al kanfe nesharim, je vous ai transporté sur des aigles d'aigle. Va avoe vers vie et très mélaillé, je vous ai amené jusqu'à moi. Je vous signale en passage, comme Manitou avait l'habitude de le faire, que les Hébreux sont partis à pied. Donc, comment le verset peut dire qu'on a voyagé sur les aigles, les ailes des aigles? Laissons toutes ces questions-là de côté. Vous voyez que quand on commence à lire vraiment les choses, on commence à se poser des vraies questions. Verset 5, « Ve'ata, et maintenant, im shamoa tishmeu, si écoutez, vous écoutez. Bekoli, ma voix. » Qui est-ce qui parle? C'est Dieu qui parle à Moïse. « Ushmartem et beriti, et vous gardez mon alliance. » Veitem li zgula, vous serez pour moi zgula, mot intraduisible en français. Rashi explique sur place que c'est otsar chaviv, un trésor précieux. Oui, vous serez pour moi un trésor précieux, mikola amim, d'entre tous les peuples, ki li kol haaretz, parce qu'à moi est toute la terre. Veatem ti yuli, vous serez mamlechet kohanim, un peuple de prêtres, une société de prêtres. Vegoy Kadosh est une nation sainte. Oui. Elé Adevarim, voici les paroles. Donc c'est Dieu qui parle à Moïse. Asher Tedaber El Ben Israël, que tu vas rapporter aux enfants d'Israël. Bien. Et comme je l'ai dit, maintenant arrêtons-nous. Et on se pose la question. Quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'ils savaient du programme à venir? Est-ce que quelqu'un a une idée?
Rien, probablement.
Il ne savait rien. Ça, c'est la solution la plus simple. Donc, aveuglement, ils ont suivi un personnage qui est moitié égyptien, moitié midian, moitié... C'est pas très clair.
On aurait leur Dieu.
Pardon ?
On ne peut pas dire qu'il ne savait rien, puisqu'il y a eu le Korban Pessah.
Alors, qu'est-ce qu'il savait ?
Alors, il savait qu'il existait quelqu'un, un Dieu, qui les avait sauvés, puisqu'ils ont obéi à des commandements. Ils ont fait le Korban Pessah, il y a eu la circoncision.
Est-ce que je peux poser une question un peu provocante ?
Oui.
Au lieu de dire un Dieu qui, peut-être qu'il savait que Moïse était... Vous comprenez la question?
Oui.
Hein?
Moïse a dit à Pharaon qu'ils allaient honorer leur Dieu.
Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
Bon, ce qu'il savait, quand Moïse est arrivé en Égypte, il a d'abord vu les anciens et il leur a tenu un certain discours.
Oui, ça a tellement bien marché que 4/5 ne l'écoute pas et reste en Égypte.
Oui, ça c'est vrai.
Oui, alors c'est peut-être qu'il y a un problème.
Non, il devait aller en Israël, il devait entrer en Israël.
Ah.
Il devait entrer en Eretz.
Effectivement, il savait une chose et ils l'ont d'ailleurs chanté. Vous vous souvenez qu'après le passage de la mer, il y a un Shiratayam.
Oui.
Eh bien, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Teviemo vetitaemo be'arnachalatcha. Tu vas nous amener à l'endroit Arnachalatcha. Arnachalatcha, c'est la montagne de ton héritage. C'est le monde de Moria à Jérusalem.
Oui.
Et pourquoi ils savaient ça? Eh bien, parce que c'était la promesse qui avait été faite à Abraham. Ça veut dire que quand les Hébreux sortent d'Égypte, ils sortent avec une mémoire, la mémoire de cette promesse-là qui avait été faite à Abraham, ça s'appelle Brit Ben Abetarim en hébreu, cette mémoire-là qu'ils ont transmise d'année en année, de génération en génération, entre-temps ils sont restés 210 ans en Égypte, mémoire qui est devenue actualité pour ceux qui ont décidé de sortir, un cinquième, ça c'est l'opinion optimiste du Midrash. Les autres parlent de un cinquantième, un cinq centième, un cinq millième, etc. Pour vous dire qu'il y avait quand même un grand problème d'assimilation, pour parler en termes modernes. Et donc, ceux qui ont décidé de sortir en faisant confiance à Moïse, avaient devant les yeux un programme. Nous, maintenant, nous avons quitté l'Égypte, et nous sommes en chemin, et ça va prendre 11 jours, pour arriver là où on doit arriver. Après, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, il y a d'autres étapes, mais c'est ça. Et tout d'un coup, ils ont une surprise immense. Début de la surprise, c'est au début de la paracha de Béchalar, quand Moïse, au lieu de le faire passer par la route la plus directe pour aller là où ils doivent aller, leur fait faire un premier détour dans le désert. Et puis, il commence à traîner, puisque là, on est arrivé au troisième mois. Au troisième mois, et Moïse vient et va leur rapporter ce qui lui a été dit au verset 4, 5 et 6 que je vous ai lu. Et donc, maintenant, on se pose la question, quelle va être la réaction du peuple? Eh bien, nous l'avons au verset 7. Vayavo Moshe. Moshe vient. Donc, il redescend de la montagne. On n'est pas encore le 6 Sivan. Là, on est au début du mois. Vayikra les Ekneam. Et il appelle les anciens du peuple. Je vous ferai remarquer qu'au verset précédent, il lui est dit de parler directement aux enfants d'Israël, pas aux anciens du peuple. Mais, apparemment, il comprend qu'il y a un problème. Et donc, il appelle les anciens du peuple. Vayasem lifneem et kol adevarim haele. Et il leur a présenté toutes les paroles qu'il a entendues à Shertzivahu Hashem, que Dieu lui a ordonné. Verset 8. Vayanu kolam. Et tout le peuple répond. Attends, au verset 7, il parle à qui? Il ne parle pas au peuple. Il parle aux anciens. Donc, d'une certaine manière, le peuple a entendu ce qui a été dit aux anciens. Oui? Vayanu kolam yachdav. Tout le peuple, d'une seule voix, a dit, ils ont dit, kol asher diber Hashem naase. Tout ce que Dieu a dit, nous ferons. Et je pose la question que Manitou pose, qu'est-ce que ça veut dire, tout ce que Dieu a dit, nous ferons? Comment vous comprenez?
Du coup, étant donné que les Hébreux avaient entendu de Dieu seulement ce qu'il avait dit à Abraham, les Hébreux sont en train de dire qu'ils n'écouteront pas ce que dit Moïse.
Et pourquoi?
Parce qu'ils n'ont pas entendu directement de la voix de Dieu.
Exactement. Surprise totale chez les Hébreux. Incompréhension. Un choc. Moïse vient nous dire des choses dont on n'a aucune idée. Et d'abord, on ne comprend rien de ce qu'il dit. C'est quoi cette notion Sgoula? Je vous ferai remarquer que c'est la première occurrence du mot Sgoula dans la Torah. Moïse n'explique rien. C'est quoi Mamlechet Kohanim? Peuple de prêtres. C'est quoi Goy Kadosh? Une nation sainte. Il y a une contradiction même dans l'expression. Goy, c'est le cadre politique d'une nation. Kadosh, c'est quelque chose de moral. Quel rapport entre la politique et la... Moïse est venu avec un message parfaitement incompréhensible pour eux. Et donc, Rashi, dans son commentaire, nous rapporte tout de suite le problème. Ce n'est pas une invention de Rashi, il nous cite le Midrash. Et il nous dit la chose suivante, je vous lis Rashi et je vous le traduis. Chouval davarze shamatimem. Voilà la réponse qu'ils m'ont donnée, le peuple. Sheretzonam lishmoa mimcha. Ils veulent entendre de toi. Donc c'est bien comme vous l'avez dit, ils n'ont pas confiance en Moshe. Pour eux, Moshe est en train d'inventer quelque chose dont ils n'ont jamais entendu parler. Il vient s'attribuer une nouvelle fonction dont ils n'ont jamais entendu parler. Jusqu'à présent, Moshe, c'est le libérateur. Et Moshe, là, vient commencer à se présenter comme étant celui qui va leur donner la Torah. Or, il n'est pas du tout évident que celui qui les a libérés est celui qui doit leur donner une loi. Et pourquoi on a besoin d'une nouvelle loi? On a nos traditions. On a ce Derech Eretz qui nous a accompagnés pendant toutes ces années de l'exil. Pourquoi on a besoin de quelque chose de nouveau? On rentre chez nous. Et tu veux qu'on soit les prêtres des nations, ça veut dire quoi? On va repartir. Ça, vous comprenez qu'il y a une incompréhension totale. Donc, ce qu'ils disent à Moïse, c'est on veut que Dieu nous le dise directement. Lishmoa mimcha. Pourquoi? Continue Rashi. Enodome ashomea mipi ashaliach le shomea mipi amelech. Il ne ressemble pas celui qui entend par l'envoyé que celui qui entend directement par le roi. Retsonenu lirot et malkenu. Nous voulons voir notre roi. Donc, et la lecture que fait Rashi, comme je l'ai dit, c'est la lecture traditionnelle. C'est que à ce moment-là, très précis, les Hébreux n'ont pas dit du tout, comme on a l'habitude de le dire, « Naase venishma », nous ferons et nous comprendrons. Mais au contraire, ont révélé leur bon sens en disant, étant donné qu'il y a une contradiction entre ce que nous connaissons par tradition, par mémoire, et ce que tu viens nous dire maintenant, eh bien, nous voulons que ça soit authentifié par celui dont tu dis qu'il t'a dit. Je pourrais vous signaler, mais on n'a pas vraiment le temps, que ce n'est pas la première fois depuis la sortie qu'il se révèle qu'il y a des problèmes entre Moïse et le peuple. Il y a, tout de suite après la sortie d'Égypte, un épisode qui nous est raconté, que vous connaissez tous, l'histoire de la manne. Ils avaient préparé de la nourriture pour un certain temps, il s'avère qu'ils vont passer maintenant par le désert, ils n'ont rien à manger, donc ils demandent à manger. Ils vont recevoir la manne. Eh bien, si vous étudiez très précisément le dialogue entre Moïse et le peuple à propos de cette histoire-là, vous verrez que Moïse a reçu un certain contenu qu'il était censé dire aux enfants d'Israël. Une partie, il a oublié de leur dire. Et une autre partie, le peuple passe son temps à faire le contraire de ce que Moïse a dit. Pourquoi? Par exemple, Moïse leur dit, vous ne laissez rien pour le lendemain. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé. Pourquoi ils ont laissé s'ils ont une confiance absolue aveugle en Moïse? Le sixième jour, le vendredi donc, les anciens du peuple, justement, viennent voir Moshe en panique en leur disant « Mais aujourd'hui, ils ont pris le double. » Et là, qu'est-ce que dit Moïse? « Ah, j'ai oublié de leur dire, mais ils ont raison. » Donc, vous voyez bien qu'ils savaient ce que c'était que le Shabbat, puisqu'ils savaient que le lendemain, il n'y aurait pas la manne, et que donc, ils étaient prêts déjà. Mais d'où ils le savent? C'est la seule tradition qu'ils avaient déjà sans que Moïse intervienne. Et par contre, quand Moïse vient et leur dit le lendemain, vous ne sortez pas dans les champs, il n'y aura pas de manne, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sortent pour voir. C'est-à-dire qu'il y a un problème ici important d'authentification de la mission de Moïse. Non pas en tant que libérateur, il les a libérés, mais en tant que celui qui maintenant va leur donner les règles de conduite, la Torah, qui vont être en vigueur à partir de ce moment-là. Le peuple confronte sa propre tradition à ce que Moïse vient dire et veut savoir s'il y a adéquation. Et tant que cette adéquation-là n'est pas claire, eh bien, ils écoutent et disent « On ne comprend rien à ce que tu nous as raconté, on veut voir notre maître, notre roi, le dire directement. » Si on comprend bien ça, quelle est la conclusion qui s'impose? Eh bien, si les Hébreux, au lieu de dire ce qu'ils ont dit, Retsonenu lirot et malkenu, nous voulons voir notre maître. S'ils avaient dit, après le verset 8, que vous avez ici sous les yeux, Vayanu kolam yachda, vayomru kolashir diber Hashem naase, si au lieu de dire, comme on vient de l'expliquer, que uniquement ce que Dieu nous dira, nous l'écouterons, s'ils avaient dit Amen à tout ce qu'a dit Moïse, il n'y a plus de révélation après. Il n'y a pas besoin de révélation. Parce que quel est le but de la révélation? Le but de la révélation, c'est premièrement d'authentifier Moïse en tant que celui qui va donner la Torah. Donc, une lecture a priori des versets fondée sur l'enseignement du Midrash, relayé par Rashi, sans connaître la fin de l'histoire, nous montre effectivement nous dévoile un problème important au niveau des relations entre Moïse et le peuple. Ça va durer 40 ans. Ne croyez pas que c'est réglé ici. Nous dévoile aussi que le premier but, la première raison du Mahamad Arsinaï, qui est devenu après un événement fondateur de toute l'histoire d'Israël, c'est d'abord un événement qui semble être contingent, qui est le résultat de la parole, de la réponse donnée par le peuple à ce qu'il a entendu auparavant. Et par conséquent, maintenant, on va être obligé, on ne va pas le faire ce soir parce que l'heure commence à être tardive, mais on va être obligé de se poser une nouvelle question qui est, mais quel est le sens de cette Torah qui va être donnée ? Et non seulement quel est le sens de cette nouvelle Torah qui va être donnée, mais pourquoi elle va être donnée sous forme de commandement ? Pourquoi, par exemple, elle n'est pas donnée de la même manière que, je reviens en arrière, elle a été donnée, entre guillemets, aux patriarches Abraham, Isaac et Yaakov. Puisque nos sages viennent nous dire qu'Abraham, Isaac et Yaakov ont accompli sans aucun problème tous les commandements qui vont être donnés ensuite.
Excusez-moi, mais la grande différence, c'est que pour Abraham, Isaac et Jacob, c'était individuel. Et là, on est au niveau du peuple.
C'est individuel, mais Abraham Yaakov à lui seul est Israël.
Oui, était Israël, mais il était Israël avec ses fils. Mais il y
avait non. Celui qui reçoit le nom d'Israël, c'est Yaakov, c'est pas avec ses fils. Non. Il y a là une vraie question. Pourquoi ce qui était, et là j'emploie les phrases exactes de Manitou, pourquoi ce qui était au niveau des midot, au niveau des comportements naturels des patriarches, est devenu des commandements pour les enfants d'Israël? Quel est le problème qui se dévoile à travers cet énoncé-là?
Moi, je pense que l'intervention, enfin, la révélation est indispensable, parce que s'il n'y a pas de révélation au âme Israël et que en fait, tout passe par Moshe, on arrive à une nouvelle version de ce qu'est le peuple juif. C'est-à-dire que ça ne le changerait pas, tu peux froncer les sourcils, c'est-à-dire que s'il reçoit que de Moshe, qui me prouve à moi que ça vient, que c'est réel, que ça a une base.
C'est bien la question du peuple.
Non, mais même pour les autres peuples plus tard, aujourd'hui.
Oui, je comprends bien, mais restons d'abord dans le contexte. Vous avez raison de dire que la question est beaucoup plus large. Mais d'abord, il faut comprendre la question pour elle-même. C'est-à-dire que nous sommes généralement, on nous a habitués à la version suivante des faits. Les Hébreux sont arrivés au pied du Sinaï. Ils avaient compté leur mère tous les soirs. Ils n'avaient qu'une attente, c'était la révélation. Mais ce n'est pas du tout ce qui est raconté. Et pourquoi on a cette première version qui ne correspond absolument pas à ce qui est raconté? C'est parce qu'on a inversé la lecture de telle manière que la version a posteriori est devenue la version a priori. Et par conséquent, en faisant ça, on a neutralisé une chose fondamentale qui est la liberté de choix d'Israël et le mérite qui s'ajoute ou qui s'attache au fait qu'ils ont décidé de suivre Moïse sans savoir de quoi vraiment il était question. Il y a un verset chez le prophète, chez Jérémie. « Zachar tilach chesed neuraïr » Je me souviens, c'est Dieu qui parle au prophète, à Israël. « Je me souviens du chesed, du mérite de ta Neuraïr, c'est la période de l'adolescence. Oui. L'erter acharai bamidbar, quand vous avez été derrière moi dans le désert, be'eretz lo zeroua. Désert qui est une terre non cultivée, non sans semence. Oui. ce sroute-là, ce mérite-là, on l'occulte. On fait comme si c'était naturel, mais ce n'est pas du tout naturel. Il y a eu le mérite de la sortie, il y a aussi le mérite d'aller après à un endroit et finalement de comprendre qu'il va se passer quelque chose de tout à fait nouveau, qui est un changement de programme, ou, si on ne veut pas parler de changement de programme, au moins un nouveau chapitre dans le programme, qui fait que maintenant ce peuple-là ne s'occupe plus que de sa destinée propre, mais reçoit une dimension universelle. Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Et le mérite d'Israël, ça va être de l'accepter. Mais il l'accepte pourquoi? Pas parce que Moïse est venu le dire tout de suite. Il l'accepte parce que finalement, il va l'entendre directement de celui qui l'a dit à Moïse. Et il va l'entendre sous forme de commandement. Et c'est ça la question. Pourquoi sous forme de commandement? Pourquoi ça ne peut pas être laissé à ma propre initiative? Vous comprenez tous les problèmes qui surgissent tout d'un coup? Et ces problèmes surgissent parce qu'on fait une lecture minutieuse de ce qui est dit. Et on l'a fait à travers le commentaire traditionnel.
On peut penser que les commandements sont liés à la période de l'esclavage, un peuple qui n'a pas eu de libre arbitre pendant des années et des années?
Non. Non. Ça n'explique toujours pas ça n'explique pas la dimension du commandement. Bon, c'est un problème très vaste, une question qu'on pourrait éventuellement étudier. Ça prendrait quelques semaines pour étudier justement pourquoi c'est sous cette forme de commandement. Mais je veux avancer pour un peu dans l'analyse, parce que quand on emploie le mot de commandement, qu'est-ce qu'on entend en français? Il y a une loi qui s'impose à moi, oui. Et puis, finalement, je n'ai pas le choix. Parce que si je ne respecte pas la loi, eh ben, y a la police qui m'attend et puis je vais recevoir une amende. Est-ce que c'est ça que véhicule l'hébreu? Eh bien, non. Relisons ce que Moïse a dit aux anciens. Voilà. Moïse vient, il appelle, il parle aux anciens. Vayasem lifneem et kol adevarim ha'ele. Et il a proposé toutes les paroles que Dieu lui avait ordonnées. C'est une proposition. D'ailleurs, au début de la paracha de Mishpatim, on va avoir la même expression qui va revenir. Ve'ele amishpatim asher tasim lifneim. Et voici les ordonnances, les commandements que tu vas mettre devant eux. Asher tasim lifneim, que tu vas leur proposer. Alors, si c'est une proposition, je suis libre de dire oui ou non.
Excusez-moi, mais pourquoi proposer et pas simplement présenter?
Présenter, c'est la même chose. C'est la même chose de ce point de vue-là.
Ça veut dire que j'ai le choix de dire oui ou non.
Bien sûr.
On me le met devant moi. Et
oui, bien sûr. Donc, si je peux dire oui ou je peux dire non, ça veut dire que ma destinée est entre mes mains, premièrement. Et deuxièmement, si c'est une proposition, comment on va expliquer la formule, par exemple, je prends les 10 commandements, c'est le chapitre suivant. Lo tirtzach, tu ne tueras point. Comment on traduit ça en français? Tu ne tueras point, oui? Alors, comment on l'entend? Tu ne tueras point. C'est un commandement, donc je n'ai pas le choix. Ou tu ne tueras pas, tu ne tueras point, c'est une promesse. Comment vous comprenez la chose?
Comme une promesse.
Il ne tuera pas, tu le mets à l'envers, tu le mets à l'endroit, c'est un commandement.
Eh bien,
je ne vois pas où est la promesse.
Eh bien, c'est là que va apparaître une dialectique très importante entre l'individu et la collectivité. Au niveau de l'individu, c'est un commandement. Pourquoi ? Parce que l'individu qui est censé faire partie de la collectivité d'Israël et donc être au niveau de l'identité, au niveau Israël, n'est pas obligatoirement déjà à ce niveau. Retenez bien cette phrase-là, elle est très importante. Manitou est revenu sur cette phrase en de très nombreuses occasions. Nous naissons au niveau identitaire qui s'appelle Jacob. Et nous devons devenir, chacun d'entre nous, au niveau identitaire Israël. Mais tant que nous ne sommes pas déjà Israël, alors tout ce qui est dit dans la Torah, qui est toujours dit à la collectivité, devient pour nous un commandement. Voilà ce que tu as à faire. Tu es né, Jacob. Personne ne t'a demandé ton avis, il n'y a pas de libre arbitre à ce niveau-là. Tu es né un homme. On ne m'a pas demandé si je voulais être un homme ou un chat. Et parce que tu es né comme tu es né, tu portes un projet d'identité. Et c'est à toi de le réaliser. Et tant que tu ne l'as pas réalisé, tout ce qui était dit est au niveau du commandement. Le commandement est d'être qui tu dois être. Mais au niveau de la collectivité, c'est une autre histoire. Au niveau de la collectivité est déjà Israël. Et par conséquent, c'est une promesse. Comme tu es Israël, tu ne pourras pas tuer.
Je peux dire quelque chose ?
Bien sûr.
Non, déjà, la Torah s'adresse déjà à quelqu'un de moral. Ça veut dire qu'il y a déjà des principes à avoir.
Oui.
Mais en plus de ça, dans le commandement de tu ne tueras pas, c'est pas la Torah ne veut peut-être pas le dire au sens le plus banal du terme, et elle reprend. Enfin, Rabbi Akiva l'explique justement dans Pirkei Avot comme tu as été créé à l'image de Dieu, donc ça en tuant l'autre, tu portes atteinte à Kadosh Baruch Hu. Il y a une dimension autre que celle de ne pas tuer que qui s'adresse à tout un groupe.
Je comprends bien, mais je voudrais préciser deux points. Le premier, vous avez tout à fait raison de dire que la Torah parle à des gens qui sont définis comme étant tzadikim, des gens qui, vous avez dit moraux, c'est exact, on dirait des gens qui sont de plus que de bonne foi. Oui. Quel est le but de la Torah ? Ce n'est pas de nous enseigner la morale. Le but de la Torah, c'est d'enseigner la Kdusha, la sainteté. Un sujet sur lequel on reviendra dans les prochains cours. Mais tant que je n'ai pas atteint ce niveau-là de sainteté, je ne suis pas qui je devrais être. Encore. Déjà. Et par conséquent, l'obligation s'oblige à moi. Mais en tant que quoi ? Pas au niveau de l'obligation dans le sens... pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, dans le sens kantien des choses, mais dans le sens identitaire des choses, anthropologique. Tu portes une certaine identité, eh bien, tu dois être celui que tu peux être. Par contre, au niveau de la collectivité, eh bien, nous sommes déjà Israël. D'ailleurs, c'est ce que leur a dit Moïse. « Ve'aitem lisgula » et vous serez pour moi ce peuple particulier. Mais Vaïtem Isgula, c'est un présent ou c'est un futur ? Ou c'est un passé ? Eh bien, c'est d'abord un passé. Ça veut dire que vous l'êtes déjà, le fait d'être arrivé au pied du Sinaï, vous êtes arrivé à un carrefour de l'histoire et vous avez ce sroute, ce mérite immense d'y être arrivé. Par conséquent, potentiellement, mais en tant que collectivité déjà de manière réelle, vous êtes Israël. En réalité, il n'y en a qu'un seul parmi toutes ces collectivités-là qui est déjà à ce niveau-là, c'est Moïse. C'est pour ça que lui, c'est écrit à la fin du verset, Asher Tzivaou Hashem. Lui, ordonné à lui, Moïse. Mais tous les autres, ils n'y sont pas encore. Et par conséquent, comme ils n'y sont pas encore et qu'ils entendent ces choses absolument fantastiques pour eux, dont ils n'avaient aucune idée quelques minutes auparavant, ils se disent, mais comment on va faire? De là, leur demande, « Retsonenu lirotet malkeinu ». On veut que notre roi lui-même vienne nous expliquer le mode d'emploi de ces choses-là. Et donc, il y a besoin d'une révélation.
Si je peux me permettre de compléter ce que vous avez dit, j'ai entendu justement de Rav Ben Ezra que quand on dit qu'un goy qui fait Shabbat ou Chayav Mita, ce n'est pas une punition, c'est au niveau même de son identité.
Oui, je ne veux pas rentrer maintenant parce qu'on est à la fin. C'est un sujet qu'il faudrait étudier pour lui-même en détail. Je pense que la plupart des gens ne savent pas du tout de quoi vous parlez. Mais ce que je voudrais, c'est d'abord que nous comprenions, ou Nizer, j'espère vous avoir montré toute l'actualité de la méthode pédagogique et la méthode d'étude que Manitou nous propose.
Aïm, une question. Ce potentiel,
tu es là.
Ce potentiel Israël,
oui.
Il existe depuis l'époque de Yaakov.
Il existe depuis l'époque, oui, ça dépend de, oui, tu peux dire ça.
Au moment où il a été réalisé en potentiel, au moment du Mahamad Arsinaï.
Au moment où le peuple sort d'Égypte, oui, tout à fait.
Personne d'autre ne pouvait avoir ce potentiel que
si.
les
Si. A priori, alors, bon, on en parlera dans les cours suivants, mais la réponse de Manitou est, a priori, oui, il y avait d'autres candidats, mais il s'est dévoilé à travers l'histoire que finalement, il n'y en a qu'un qui est arrivé. La question qu'il va falloir se poser, c'est, ben, s'il n'y en a qu'un qui est arrivé, qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la destinée des autres? Mais ça, on en parlera les semaines à venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, je vais vous poser une question.
Avec plaisir.
Oui, vous n'avez pas expliqué, vous n'avez pas eu le temps, mais vous avez dit qu'ils étaient à pied.
Ah. alors je veux bien prendre 2 minutes pour ça.
Oui.
Je vais l'expliquer de la manière dont Manitou l'expliquait.
Chaim, juste oui. Un instant, vous ne voulez pas enlever le texte
si vous... Ah oui, si on n'a plus besoin du texte, je l'enlève, oui, voilà. Voilà, aussi vite, aussi fait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, effectivement? Eh bien, Manitou disait, voilà. Le fond de l'analyse de Manitou se trouve chez le Maharal, bien évidemment. Mais il disait la chose suivante, voilà, il y a Pendant tout le temps de l'exil, en réalité, on n'a aucune idée de comment les choses vont se passer. Et puis un jour, elles se passent comme elles se passent. Et puis il y a des gens qui, comme ils se sont forgés leur propre opinion sur comment les choses devaient se passer, finalement sont très déçus, même incrédules. Ah, c'est comme ça que ça se passe? Mais on nous avait promis des miracles, des machins, des trucs, enfin, vous voyez tout le côté pyrotechnique, etc., merveilleux, etc. Et puis c'est d'une banalité. Alors Manitou disait la chose suivante, voilà la leçon de la Torah. Ce n'est pas à nous qui décidons comment ça se passe comme ça se passe. Des fois avec plus de mérite, des fois avec moins de mérite. Mais ça se passe. La chose importante, c'est que ça se passe. Et l'erreur, le piège, je cite Manitou Motabo, et le piège de la émouna, de la foi, c'est de refuser quand ça se passe, de voir que ça se passe. Sous prétexte que on nous avait promis de sortir d'Égypte en avion, avec les aigles, et puis on a dû marcher pendant 40 ans. Et donc il y a là un piège de la foi, qui fait que, comme on ne sait pas comment ça va se passer, quand ça se passe, on refuse de dire, ah ben oui, c'est effectivement, ça se passe comme ça. Et donc, il y a des fois incrédulité, il y a refus, il y a aussi toutes les réactions que vous pouvez avoir, des gens qui viennent en disant, mais dans le texte, c'est écrit comme ça. Oui, mais ça veut dire quoi, dans le texte, c'est écrit comme ça? Peut-être que tu n'as pas compris le texte. Ce qui veut dire que quand la Torah nous dit que Dieu nous a amené à lui Al-Kanfe Nesharim, eh bien peut-être qu'il faut comprendre de quoi il est question. Et non pas projeter nous-mêmes notre pseudo-compréhension sur le texte et lui faire dire autre chose. Voilà. On est presque arrivé à la demi.
Deux petites choses.
Oui, on a encore 4 minutes.
Alors, c'est sur deux mots qu'on a entendus ce soir. Et l'otirtsar, alors ça me fait toujours mal quand j'entends dire « tu ne tueras point » parce que le sens, évidemment, est « tu n'assassineras point ». C'est ce qui permet aux nations d'accuser l'État d'Israël et tout, parce qu'ils disent « c'est marqué, vous ne tueras point ». Non, c'est… Donc là, juste pour ce mot, c'est « assassiner », en fait, l'otirtsar, et non pas « tuer ». Et puis l'autre chose, c'est que le peuple juif a deux messages pour l'humanité qui sont dans Mamlechet Kohanim, c'est-à-dire qu'on a à la fois un message spirituel qui est dans Kohanim, mais aussi Mamlechet, qui est un message de royauté, de nation, etc. Donc j'aime mieux que l'on traduise à la limite une royauté de prêtres, mais pas un peuple de prêtres. Ce n'est pas marqué Am Kohanim ou quelque chose comme ça.
Bon, alors, je me permets de rectifier. Quand vous dites un message spirituel, je ne sais pas de quoi on parle, et Manitou avait en horreur ce mot-là, spirituel, parce que c'était le mot le moins clair qu'on a l'habitude d'employer à toute occasion. Ce n'est pas clair du tout. Qu'est-ce que ça veut dire spirituel? Ce n'est pas quelque chose de concret?
Si, je dis pas
alors si c'est concret, ça peut pas être spirituel.
Et le mot de
mamlacha, oui, a un sens très simple, un sens premier très simple en hébreu, dans tout le Tanakh, il est question du cadre politique, d'un cadre politique, Est-ce que c'est une royauté ou pas une royauté, etc. C'est une autre question. Oui, mais c'est de ça dont on parle d'abord.
Il y a le mot Meller dans Mamlacha.
Le mot de Meller désigne le pouvoir politique.
Voilà, du dirigeant.
Non, désigne une des quatre fonctions nécessaires pour la société d'Israël. On a le Meller, le Shofet, le Kohen et le Navi. Comment après, à telle ou telle époque, chacune des fonctions est concrètement remplie, c'est une autre question qui mérite un cours pour lui, bien évidemment. Bien, alors je pense qu'on est arrivé au bout de l'heure et demie pour ce soir. Comme je l'ai dit et comme Olivier l'a très bien dit aussi au début, nous souhaitons effectivement avoir ce groupe WhatsApp pour pouvoir continuer le débat entre nous, avec grand plaisir. Donc, donnez vos numéros de téléphone à Olivier, qu'on puisse vous rajouter au groupe et qu'on puisse le rendre actif. Et deuxièmement, il y a un enregistrement, et donc l'enregistrement sera mis à disposition de ceux qui seraient, par hasard, arrivés un peu en retard. Dans 15 jours, on commence à 8h00. Pour l'heure israélienne, 7h00, l'heure française. Allez! Bonsoir.